cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Nemanja Radulovic.
Bonjour.
Alors vous publiez votre premier album chez Decca, je crois que c'est le troisième en fait au total,
oui.
Un album qui s'intitule Les Trilles du Diable. Alors vous allez sûrement nous en dire un petit peu plus sur ce titre, un album que vous ne signez pas seul, avec également le quatuor Illico et le contrebassiste Stanislas Kuczynski. Alors on a un programme assez éclectique on va dire, qui évidemment comme son nom l'indique, et vu que vous êtes violoniste, qui est quand même axé autour des cordes, mais sur lequel on peut aussi bien trouver du Tchaïkovski que du Tartini, Trilles du Diable notamment, etc. Alors racontez-nous un petit peu l'origine de ce projet, peut-être d'abord votre rencontre avec ce quatuor, le quatuor Illico.
Ben, en fait, avec les quatuors et Stanislas, on a eu une première occasion à jouer en concert. D'ailleurs, au départ, il n'y avait pas vraiment de projet à continuer à faire ces programmes-là. Mais suite à ces concerts, on a eu envie de continuer à jouer ensemble parce qu'on trouvait justement très agréable de se retrouver juste entre les musiciens de cordes. Et ce qui permet aussi d'avoir une sonorité presque à accompagnement de l'orchestre, mais en même temps la musique de chambre. De ne pas avoir la masse sonore d'un orchestre. Et voilà. Et par rapport au programme, en fait, c'est un programme qui raconte aussi un peu l'histoire de la musique, parce que ça part des compositeurs de baroque jusqu'à les compositeurs d'aujourd'hui, presque.
C'est quelque chose qui s'est fait progressivement par rapport au choix des œuvres avec le quatuor, où vous aviez un peu votre plan vraiment en tête précis par rapport à cet album?
Ben, en fait... Il y a certaines pièces qui sont sur le disque qui étaient là au départ des projets, mais puis il y en a d'autres qu'on a changé aussi par rapport au public et par rapport au concert et par rapport à notre travail à nous, tout simplement.
Est-ce que le fait de les jouer avec ce quatuor-là vous a fait découvrir certaines œuvres de manière différemment?
Complètement, parce que on se rend compte que les facilités parfois qu'on peut avoir avec un pianiste, parce que c'est une seule personne et qui peut gérer plein mélodie en même temps, plein voix en même temps, c'est complètement différent avec 6 personnes. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, on s'entend quand même assez bien dans le groupe et on a chacun des envies aussi différentes, mais on
personne ne marche sur les pieds de l'autre.
Si, mais bon, on a appris à faire avec. Non, je rigole. Mais voilà, c'est une opportunité aussi de connaître ces œuvres-là avec 6 voix différentes.
Est-ce que quand vous rencontrez un musicien, là, un quatuor, est-ce que votre vision de votre propre instrument, de votre propre jeu, de votre approche de chaque œuvre est différente, fait évoluer? Qu'est-ce que pour cet exemple-là, qu'est-ce que jouer avec ce quatuor précis, ce quatuor Illico, vous a fait découvrir sur vous-même, sur votre jeu et votre approche de l'instrument?
Alors, moi, j'ai beaucoup de partenaires en musique de chambre avec qui je joue. Et j'adore même jouer les mêmes œuvres avec différents partenaires parce que ça me permet justement de faire des versions différentes des œuvres, parce que je suis quelqu'un qui propose des choses mais qui aussi accepte différentes versions. Et le quatuor Illico et Stanislas, ils ont une liberté dans la pensée aussi et dans le travail que peut-être avec un quatuor plus classique, je dis plus classique parce que quatuor Illico font aussi la chanson française, peut-être que ce sera plus difficile aussi d'avoir cette relation.
Vous parlez vous dites j'aime bien avoir des versions différentes. Ça arrive un petit peu sur le rôle de l'interprète. Est-ce que vous avez qu'est-ce que c'est qu'un interprète pour vous?
Un interprète.
Il y a la partition, il y a le public, l'auditeur, et au milieu il y a l'interprète. Est-ce que c'est quoi, un passeur? C'est un traducteur?
C'est l'artiste qui essaye j'essaie de faire passer les sentiments et les messages que j'ai dans ma tête et ce que j'ai en moi avec la musique qui a été écrite par des différents compositeurs. Maintenant, chaque interprète reçoit aussi, quand il regarde la partition, il voit la partition autrement. On ne peut pas voir tous de la même manière et on ne peut pas traduire un piano non plus de la même manière. Et c'est ce qui est aussi intéressant dans le rôle d'un interprète. Et puis le public, c'est encore autre chose parce que c'est le public qui soit reçoit ou ne reçoit pas.
Est-ce que justement ces questions d'interprétation, de passé, c'est des choses qui vous travaillent énormément par rapport à certains compositeurs, à certaines œuvres plus que d'autres, à certaines partitions plus que d'autres, ou finalement vous avez un fonctionnement qui est un peu similaire à chaque fois?
Mais j'essaye dans mon travail quotidien, donc pas sur les scènes, mais le travail à la maison avec mon violon, de trouver justement les authenticités de chaque compositeur. Et au moment de concert, de me libérer de chaque préjudice que je peux avoir sur certaines pièces ou sur certains compositeurs.
C'est facile ça ou pas? C'est difficile de se libérer?
C'est quelque chose que je crois que j'ai appris. Et puis je crois que j'étais aussi beaucoup comme ça. J'aime beaucoup la liberté aussi dans la vie et aussi sur scène. Donc voilà, je ne sais pas si c'est facile ou pas, c'est le public qui en juge, mais en tout cas j'essaye d'être le plus libre possible.
Le disque est enregistré live, quelle était la volonté précise par rapport à ça? C'était une énergie, quelque chose qu'on pouvait capter là et qu'on n'aurait peut-être pas pu capter dans un studio?
Alors, ce qui est bien avec ce groupe, c'est que ça bouge énormément musicalement et la version en live, je crois, c'est ce qui est idéal pour ce groupe et ce programme-là, parce que ça permet, on sent la présence du public aussi sur le disque, malgré qu'on avec tous les progrès qu'on a fait, on a un enregistrement parfait dans le sens, voilà, par rapport à la prise de son, mais on sent quand même tout le mouvement du live pendant le disque, et ça j'aime beaucoup, parce que les deux premiers enregistrements aussi étaient faits en live et c'est peut-être pour moi plus facile d'accepter aussi certaines versions, parce que je me dis dans 2 ans, ce ne sera pas du tout comme ça, je ne verrai pas du tout les choses comme ça. Donc quand je pense que c'est le live, voilà, c'était une période, je ne sais pas.
Vous dites que dans 2 ans ça sera différent, ça veut dire que pour vous un album, un CD ou enfin un album vraiment avec un début, un milieu, une fin, c'est une photo de vous à un instant précis, c'est quelle valeur vous donnez à vos disques, aux disques même en général, même à ceux des autres?
Mais c'est très difficile, parce que pour moi c'est le live, ça permet justement de se détacher de cette vision, voilà, c'est comme ça, c'est enregistré, ça sera pour toujours. Moi, je suis pas quelqu'un qui pense que des choses qui existent sont pour toujours. Donc voilà.
Mais ils sont avec pas... comme ils sont. Mais par exemple, vous, peut-être que dans votre éducation musicale, dans votre jeunesse ou même actuellement, il y a des disques qui sont pas de vous, mais des disques d'autres qui sont importants pour vous, qui ont marqué votre culture musicale, votre apprentissage. Donc il y a une valeur quand même symbolique pour vous.
Oui, complètement. Mais il y a aussi des périodes ou certains disques, je ne les entends pas du tout de la même manière. Donc, voilà, c'est très drôle. Mais je suis quelqu'un qui reçoit et qui fait des choses vraiment par période.
Vous êtes cyclique, vous avez des phases
J'ai des phases où j'écoute plus ou moins plein d'autres artistes. Et puis, trois semaines plus tard, je ne vais pas du tout écouter ces choses-là. Je vais trouver autre chose. Et puis après, je vais revenir et je vais retrouver autre chose. Et voilà.
Si on fait un peu un flashback, qu'est-ce qui vous a poussé à faire du violon? Pourquoi pas de la batterie ou du piano?
Mais en fait, j'ai fait plusieurs instruments et à l'âge de 14 ans, j'ai fait piano et violoncelle et l'alto. Mais c'est avec le violon que je me sentais toujours le plus à l'aise. Je ne sais pas, c'est peut-être la proximité aussi de l'instrument qui fait presque
le rapport physique
Le rapport physique, mais aussi, je crois que c'est par rapport au son du violon, c'est ce qui me correspondait le plus. Et c'est l'instrument où j'ai trouvé le plus de possibilités, comment m'exprimer.
C'est une révélation, c'est quelque chose que vous avez senti très rapidement dans votre apprentissage ou c'est venu progressivement?
Mais le violon, c'est venu très rapidement parce que j'ai commencé à 7 ans. À 7 ans et demi, j'ai donné mon premier concert. Et donc l'instrument c'était vraiment l'instrument principal.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de vos années d'apprentissage, le début, le conservatoire? Chose avec des heures, on joue. Est-ce que, quand vous regardez rétrospectivement, c'est quelque chose. Il y avait des phases, c'était difficile, c'était lourd. Comment vous regardez ça?
Mais j'ai eu tout de suite la chance quand j'ai commencé à travailler au conservatoire, donc à l'âge de 7 ans, d'avoir un professeur qui m'a clairement dit voilà, tu travailles quand tu en as envie. Quand tu travailles, ne pense pas à jouer avec d'autres enfants et faire d'autres choses. Et puis, par contre, quand tu joues, ne pense pas du tout au violon. Donc, c'était assez clair dès le début. Et puis, j'aimais approfondir le travail avec mon violon. Ça n'a jamais été difficile pour moi, même s'il y avait des jours où je n'avais pas envie du tout de bosser, où j'avais complètement envie de faire autre chose. Mais je revenais toujours, pas plus de 2-3 jours. Je revenais toujours avec mon violon. Et c'est dans l'enfance aussi, c'était une chose. J'étais quand même assez timide quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Et violon permettait aussi, la musique permettait aussi d'exprimer certaines choses que je ne dirais pas forcément avec des mots. Voilà.
Mais avec des notes. Est-ce que toujours dans cette période d'apprentissage et de timidité de s'exprimer, vous êtes né en Serbie, quand vous avez grandi, il y a eu la guerre. Comment, quand on vit son instrument de manière aussi physique, aussi intense, et même d'expression, vous avez donné la valeur que ça avait pour vous, qui était plutôt réservée. Est-ce que quand on vit dans un milieu vraiment horrible, intense de guerre, est-ce qu'aussi il y a un moyen, il y a d'expression par rapport à ça, de réaction avec son instrument? Ou est-ce qu'on arrive à s'enfermer? Est-ce que la guerre, les tensions, la mort, etc., ont une influence directe sur votre apprentissage, sur votre jeu?
Moi, je dois dire que pendant la guerre, on a eu vraiment la chance que la musique reste présente dans la vie de chacun. Parce qu'on faisait tous les jours les concerts sur la place principale de Belgrade, alors qu'il y avait des bombes partout qui tombaient. De faire des concerts, et même il y a quelques artistes étrangers qui venaient aussi, et pour nous c'était une sorte de libération. Les bombes, on ne les voyait plus. Mais après, c'était surtout après la guerre, quand je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans, il y a eu des gros changements musicalement parlant. Techniquement, il y avait des changements, mais pas aussi extrêmes que musicalement. Et au niveau d'expression avec Patrice Fontanarosa, mon professeur en France, parce qu'à chaque fois quand je jouais, je revoyais au tout début les images de la guerre, les bombes, les immeubles qui étaient complètement détruits. Donc voilà, je pense que ça a eu quand même un rôle assez important pendant une période. Même aujourd'hui, je repense.
Et justement, ce passage comme ça d'un climat de guerre, vous arrivez en France, donc déjà il y a un changement, il y a une sorte de déracinement, et en plus dans un pays, dans un contexte qui n'a rien à voir. Pareil, est-ce que c'est quelque chose qui fait évoluer tout d'un coup progressivement, vous avez parlé de votre professeur à ce moment-là, enfin, qui fait complètement changer votre vision de la musique, votre approche de l'instrument.
Oui, mais le changement, il était vraiment extrême.
Radical, ouais, c'est ça,
oui.
Ouais.
Et
est-ce que c'est perturbant quand même? Est-ce que c'est perturbant? C'est-à-dire qu'il y a le côté, peut-être, j'imagine, on est dans un torrent, mais est-ce qu'il y a aussi, il y a vous, il y a votre personnalité, votre vision dans tout ça? Est-ce qu'on se laisse prendre par le tourbillon? Est-ce qu'on on arrive à s'affirmer?
Ben, en fait, moi, j'ai eu quand même la chance d'arriver avec mes parents en France et avec ma famille, mes sœurs. Après la guerre, tout ce qui vient, en tout cas, on est... Parce que la guerre a commencé quand j'avais 5-6 ans, donc j'ai toujours connu la guerre. Mais, et puis quand on arrive dans un pays où il n'y a pas la guerre, où on peut aller dans les magasins, où on va retrouver, on ne doit pas attendre la queue pour avoir un peu de lait ou du pain, toutes ces choses-là sont beaucoup plus agréables et naturelles, et on s'habitue vite, forcément. Mais encore une fois, j'ai dit que j'avais la grosse chance d'avoir mes parents qui étaient là et qui ont réussi aussi à gérer tous les changements avec trois enfants. Et avec, voilà. Et ensuite, c'est la rencontre avec la famille Fontana Rosa, entre autres, et puis des amis qui sont même aujourd'hui des amis. À cette période difficile, là, qu'on a rencontré.
On a parlé un peu de disques tout à l'heure. Est-ce que les disques ont joué un rôle important, ceux des autres, dans votre éducation musicale? D'abord à Belgrade, et ensuite, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous étiez très désireux d'écouter? Vous écoutiez énormément, vous étiez à la recherche de disques? Est-ce que vous aviez des idoles, je ne sais pas, dans cette première partie de votre éducation musicale?
Alors, j'ai écouté énormément de disques, énormément de musique, pas forcément toujours classique, mais voilà, j'ai écouté plein de choses, plein de différentes musiques. C'est encore une fois, c'était par période, parce que j'avais un peu les idoles comme Enuin, Stern. Pendant une époque, Stern était vraiment très important. Oistrakh, bien sûr, plein d'autres musiciens, mais j'étais jamais fixé sur un seul artiste qui me guidait, entre guillemets. Voilà, c'était pareil pour les professeurs, parce que les trois professeurs avec lesquels j'ai travaillé, c'était des gens complètement différents. Et avec Patrice Fontana-Rosa, à la fin, c'était vraiment la libération, parce qu'il a une telle générosité, une gentillesse qui est aujourd'hui vraiment très rare. Donc voilà, c'était une sorte de libération et le rayon de soleil.
Thank you.
Mais vous avez dit que vous écoutiez autre chose que du classique. Qu'est-ce que vous écoutiez, par exemple?
Mais j'écoutais tout ce que les ados...
Mais est-ce que vous aviez, je ne sais pas, des groupes fétiches ou des musiciens ou des chanteurs qui vous...
Oui, mais j'ai écouté... je ne dirais pas parce que... Non, mais même aujourd'hui, j'écoute plein de choses. Je n'avais pas forcément un groupe fétiche. J'ai écouté beaucoup le rock, aussi serbe, la pop. Là, c'était toujours la pop et la rock. Et même aujourd'hui, j'écoute les grosses productions, les artistes moins connus. Voilà. J'écoute tout.
Est-ce que par rapport à... Vous avez parlé de votre vision, effectivement, votre vision des œuvres qui se fait parallèlement à un apprentissage d'un instrument, est-ce qu'on trouve facilement sa propre voix? C'est-à-dire qu'au début, il y a le professeur, un peu une sorte de figure au-dessus, il y a les disques des autres, vous avez cité, etc. Puis, mais il y a vous au milieu de tout ça. Est-ce qu'il y a un moment, finalement, clé où ça bascule et où on a vraiment l'impression d'être soi-même, ou est-ce que ça se fait progressivement, sa vision du violon et de la musique, tout simplement?
Alors, moi, je vais encore revenir sur Patrice Fontanarosa, parce que en fait, sa manière de travailler avec les étudiants, c'était une chose qui était incroyable pour moi. C'est-à-dire, il trouvait à chaque fois la personnalité de chaque élève et il travaillait, il donnait jamais les cours de la même manière. Donc, ça permettait vraiment que la personnalité se crée pendant les cours. Et puis après, une fois on travaille à la maison, tout devient beaucoup plus clair et on se retrouve petit à petit. Donc, les influences, il y a eu quand même pas mal d'influences de la part de Patrice Fontanarosa, mais finalement qui venait de mon côté. Voilà.
Est-ce que, donc vous avez dit que vous écoutiez beaucoup de choses, qu'est-ce que vous pensez un peu du débat sur la dématérialisation de la musique, le piratage, le fait que... Oui, le téléchargement, tout simplement, la façon dont les gens ont accès à la musique différemment, écoutent de la musique différemment, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un débat qui vous touche ou pas trop?
Moi, personnellement, j'aime beaucoup le disque, l'objet du disque. Et forcément, pour moi, je suis un peu triste de voir qu'il y a de plus en plus de téléchargements et que le disque disparaît. Mais en fait, je pense que c'est aussi un peu comme le monde et l'évolution des choses, donc voilà, ça va dans ce sens-là, mais je ne peux pas dire si c'est bien ou pas. J'ai pas vraiment de... Non, là, je suis triste parce que la disque, je vois que ça disparaît petit à petit, mais après, on verra dans quelques années.
Est-ce que vous avez déjà des envies par rapport à vos enregistrements futurs? Il y a des choses que vous avez envie déjà d'enregistrer prochainement?
Oui. Voilà.
Il y aura donc une suite.
Mais j'espère qu'il y aura une suite après cet enregistrement.
Est-ce que vous pensez qu'on fait un album un peu en réaction au précédent à chaque fois ou pas spécialement?
Moi, je me pose pas vraiment la question là encore. Je fais des choses quand j'ai envie de les faire. Les concertos de Mendelssohn, par exemple, c'était peut-être aussi un gros risque de prendre de les enregistrer en live avec des répétitions, avec un orchestre, sans chef d'orchestre. Mais finalement, j'avais vraiment envie, à cette période, de jouer les Mendelssohn. Là, c'était pareil. J'avais très envie que le disque avec les tris sorte parce que là, ça faisait un moment qu'on travaillait ensemble et qu'on voulait que ça officialise aussi notre travail commun. Et puis par rapport aux pièces aussi, on aime beaucoup ce répertoire. Donc, voilà, je ne sais pas sur les prochains, j'avais pensé au disque que j'avais fait auparavant, mais voilà, je fais plutôt avec mes envies.
Alors parfois, il y a aussi le hasard, je crois que c'est en 2006, vous avez remplacé Maxime Wengroff pour un concert, donc là c'est des choses qui arrivent comme ça tout à coup. Qu'est-ce que vous gardez de ce souvenir de cette soirée par exemple?
Mais je garde surtout une sorte de stress, mais après le concert, parce qu'avant le concert j'ai pas eu tellement de temps de stresser, parce que j'ai appris vraiment la veille. J'étais dans le train, je revenais de l'Allemagne et j'ai appris juste le soir que le lendemain je jouerais. Voilà, Pleyel. Mais ça fait partie des choses dans la vie qu'on ne prévoit pas et puis qui fait aussi les surprises. C'est des surprises de la vie qui font finalement presque la moitié de on dit il faut beaucoup de talent, il faut beaucoup de travail, mais il faut aussi beaucoup de chance quand on fait ce métier-là. Donc je crois que ça fait partie de ça aussi.
On a parlé de l'interprète, vous avez parlé de professeur, etc. On n'a pas trop parlé des chefs d'orchestre, le rapport qu'on peut entretenir avec... avec le chef d'orchestre, quel rapport, vous voyez, pour vous, violoniste, est-ce que ce sont des choses qui, il y a eu des rencontres qui ont une influence sur votre vision de la musique, et si oui, lesquelles?
Alors, moi, par rapport à un chef d'orchestre, je vois vraiment comme un partenaire, comme un pianiste ou comme un membre des tris, parce que je trouve que on fait toujours un trio sur scène avec l'orchestre, le chef et les solistes. Pour moi, c'est très important d'avoir la communication sur scène avec un chef d'orchestre, parce que ça me permet. Je suis un artiste comme ça qui accepte beaucoup de choses qu'on me propose, mais voilà, qui a envie aussi d'intervenir. Donc, dans les chefs avec qui j'ai pris énormément de plaisir, c'est Yuta Kasado, Chung aussi. Eiji Ue, un chef japonais aussi, un autre chef japonais. Voilà, c'est des gens qui sont arrivés très ouvertement envers moi et qui n'essayaient pas de me mettre à leur version alors qu'ils dirigeaient ce concerto, par exemple, 20 ou 30 fois. Voilà, ils respectaient tout à fait ma version et on a essayé de faire quelque chose de nouveau, peut-être.
Dans vos envies, est-ce qu'il y a des envies de rencontre? Est-ce qu'il y a des musiciens, soit des chefs, soit des musiciens avec lesquels vous rêveriez de travailler?
Moi, j'aimerais beaucoup jouer une fois en sonate avec Martha Argerich. Ça reste vraiment mon rêve, parce que cette personne est pour moi juste incroyable. Et il n'y en a qu'une. Et voilà, donc Martha Argerich. Après, il y a plein d'autres... orchestre et...
Enfin, c'est le premier nom qui vous vient comme ça.
Voilà, c'est le premier nom des grandes personnalités, mais je dois dire que j'étais toujours surpris agréablement par des gens avec lesquels je ne m'attendais pas forcément à voir quelque chose qui va se passer entre nous. Et puis, il y a eu des rencontres, par exemple, avec Suzanne Manoff aussi, avec Dominique Blancade, Laure Pavrakan. C'est des partenaires avec qui je joue énormément et avec lesquels je partage... de bonheur. Voilà.
Alors, je rappelle que donc vous serez le 16 octobre sur la scène de l'Européen pour promener vos trilles du diable. Et donc, on vous souhaite bonne chance pour ce concert. Merci.
Merci. Merci.
www.cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.